Culture Ville, Pascal Paradis.
Des films et des livres à découvrir dans cette seconde partie d'émission, des films graves qui racontent la Shoah. C'est à la fois un ouvrage et une rétrospective à la Cinémathèque française, Bérénice Baltin.
La Cinémathèque française, au lieu du 7e art s'il en est, se veut également, Pascal, un lieu de mémoire et de réflexion liant cinéma et sujets de société ou d'histoire. L'exemple est parfait avec le cinéma et la Shoah.
Un roman, celui de Michael Ondaatje, vous avez lu Elisabeth Le Quéré, Divi Sadero.
Un roman familial, donc le 5e roman de Michael Ondaatje, qui est mondialement connu pour avoir écrit Le Patient Anglais.
Mais auparavant, pour faire Jones, nous allons parler cité.
Faut encore que je coffre un peu de l'aube, mais après, ouais, peut-être que je vais m'arranger pour
essayer de prendre faut que je mange, puisque là, ça devient un peu de spi. Il faut que je fasse quelques petites gestes de spi. Et moi aussi, il faut que je coffre. Et puisque j'ai bigouillé 2-3 gars là.
Ouais.
Et ils m'ont dit que en fait, la date, c'est ça. La date, c'est exactement ce que tu m'avais dit.
Ouais.
Puis on va être à peu près une quinzaine.
Pardon, vous n'avez rien compris. C'est logique, ou du moins pas illogique, car Franck Longepied et Cédric Nago parlent un argot des cités qui est expliqué et commenté dans un ouvrage qui se vend comme des petits pains, le Lexique des cités. Un ouvrage collectif écrit par 4 garçons et 7 filles d'Evry, en banlieue parisienne, mais je crois qu'il faut dire 4 Quemets et 7 Frelottes, réunis par l'association Permis de vivre sa ville et supervisé par le linguiste Alain Ray. Au total, 240 mots dans un bouquin qui tue. Daniel Lieuze a rencontré deux de ces jeunes, donc Franck Longepied et Cédric Nago.
J'ai un peu feuilleté le lexique. Ghetto, par exemple, c'est un mot très ancien, enfin qui date du 13e siècle. Donc, ghetto, qui vient du mot en fait à la base guetta, c'est une fonderie. Hein. C'est une fonderie, guetta, qui était en fait. Ghetto, c'est le quartier juif de Venise. Toute la ségrégation, tout, on met tout le monde à part, et choses comme ça. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, le ghetto, c'est autre chose. C'est toutes les images fortes qu'il y a à Soweto, et les choses comme ça. Et nous, on prend toujours ces images fortes, comme dans le Bronx, pour désigner aujourd'hui le ghetto. Ça peut être le ghetto dans ma chambre. Donc c'est le bordel, le désordre, tout simplement, des choses comme ça. J'ai été le seul à illustrer le lexique au niveau du dessin, parce que Franck, lui, a illustré le lexique à sa façon, c'est-à-dire avec tous les graphes et les tags. Donc moi, c'est tout ce qui est la partie dessin. On voulait pas que ce soit un livre plombant, on voulait que ça fasse rire tout le monde.
Un qui est pas mal, par exemple, je vois, c'est Taclé.
Taclé, dans le dessin, il y a 3 personnages, donc il y a une fille et 2 garçons. Entre guillemets, donc il y a 2 garçons qui se battent pour la même fille. C'est comme si moi, je venais et je draguais une fille. Une autre personne comme Franck, par exemple, elle vient et me tacle. Il m'a pris le ballon, entre guillemets, la fille c'est le ballon, mais bon, on la considère jamais comme ça. Et puis voilà, il s'est mis à ma place, donc il a pris le numéro de téléphone de la fille alors que j'étais sur le point d'aboutir, j'avais concrétisé quelque chose. Nous, on a fait ce lexique pour montrer aussi qu'il y a beaucoup plus de gens qui font autre chose que de brûler les voitures. Donc il y a beaucoup de créativité, par exemple. Et donc voilà, on essaie d'apporter une autre image positive. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire changer les choses. Les mots, maintenant, ils sortent de la banlieue. Ils sont aussi employés par les jeunes, je sais pas, du 16e, de Paris, enfin, dans le 8e, dans le 11e, partout, on utilise ces mots-là. C'est un langage des jeunes, tout simplement.
Les contraires s'attirent, mais veulent tout et tout. Suite, les hémisphères s'aiment comme tout et tout. Si, sud et nord, sud et sup nord, c'est la mort.
Il y a un mot que j'aime bien, c'est par exemple le mot chim, qui veut dire moche en fait, et qui est un peu plus propre par exemple au 91. Et en fait c'est un mot qui a subi une transformation formelle, tout d'abord avec le verlan. Donc de moche on est passé à chemo, de chemo on est passé à chum, et ensuite à chim, pour toujours garder cette notion de cryptage en fait. Raqué qui veut dire payer par exemple, qui vient de rack, qui est l'onomatopée du crachat en fait. Et donc au 19e siècle, raquer ça voulait dire cracher, et donc aujourd'hui cracher l'argent, cracher la maille, payer, raquer, voilà.
J'ai beau me cultiver, mes aptitudes me trahissent. On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte la liste. Ils me catégorisent sur mon milieu théorique, mais je pars en quête de la terre promise comme oui.
En fait, l'argot, il est forcément l'image des quartiers populaires en général. Il y avait comment le Titi parisien, etc. Aujourd'hui, les vagues d'immigration qu'il y a depuis ces dernières années sont plutôt des vagues qui viennent d'Afrique, surtout. Et c'est pour ça que nous, notre langage aujourd'hui, il est beaucoup inspiré de cette culture-là, que ce soit du Maghreb ou que ce soit de l'Afrique noire. Forcément, nous, on s'y retrouve à apprendre quelques mots qui viennent du Bambara ou des choses comme ça. Et puis ensuite, dans le travail d'étymologie que nous on a fait, on s'est rendu compte que certaines expressions, en fait, on pensait qu'elles venaient du Wolof ou du Bambara, et en fait venaient du français. Donc on a retracé aussi avec ce travail d'étymologie l'histoire d'une expression. Par exemple, en malais, on va dire yadra. Il y a bagarre, il y a embrouille. En fait, moi, je pensais que c'était un mot qui venait du malin. Quand on a fait de la recherche étymologique, on s'est rendu compte que ça venait de l'expression française être dans de sales draps, en fait. Et donc, avec la colonisation, etc., les tirailleurs, Sénégal et tout, c'est parti en Afrique. Ça a tourné un peu dans les ethnies, tout. C'est revenu avec l'immigration sous l'expression yadra. Mais enfin, ça a la même racine, quoi. Et donc, nous, on a découvert beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses avec l'étymologie des mots. Il y a certains mots avec les intonations qu'on utilise, etc., qui pour nous, on pense, apportent un certain contraste ou une certaine épaisseur à cette langue française. Être moelleux, par exemple, aujourd'hui, moi, quand je dis je suis moelleux à Cédric, ça veut dire que je suis dans une situation où je suis tellement mou et tellement bien que j'ai pas du tout envie de bouger. Mais c'est des petites nuances qu'on apporte. Et donc, après, comment c'est compatible tout à fait avec le français académique. Nous, on arrive à s'adapter en fonction de chaque situation. Ça reste que des paroles et ça reste que des dialogues, hein, de toute façon.
Franck Longepied, Cédric Nago, micro de Daniel Lieuze. Le lexique des cités avec un K à la fin de lexique est édité aux éditions du Fleuve Noir. Elisabeth Le Quéré, dans une traduction beaucoup plus orthodoxe, vous avez lu Divi Sadero, le nouveau roman de Michael Ondaatje, auteur que l'on connaît surtout pour Le Patient Anglais. Énorme succès.
5 millions d'exemplaires vendus, c'est colossal. C'était le troisième roman de Michael Ondaatje. Alors, le livre, mais c'est un lapsus que vous allez comprendre. Le livre a eu un énorme succès parce qu'il a remporté le Booker Prize, qui est l'équivalent anglais du Goncourt. Mais évidemment, s'il a pu se vendre à 5 millions d'exemplaires, c'est grâce au film que 4 ans plus tard, en 1996, Anthony Minghella a fait à partir du livre. Le film a eu 9 Oscars et donc voilà, succès colossal pour le film, succès colossal dans la foulée pour le livre d'Ondaatje. Ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup circulé. Il est né au Sri Lanka, il a été élevé en Angleterre, il est parti à l'âge de 20 ans au Canada. Alors, il fait partie de cette catégorie d'écrivains comme Naipaul ou Rushdie, qu'on appelle, parce qu'ils sont nés dans les anciennes colonies britanniques, des confettis d'empire, ce qui n'est pas très gentil.
Alors, dans Le Patient Anglais, Elisabeth, il était question d'un amour impossible ou difficile, en tout cas. Est-ce que cette thématique, on la retrouve dans ce nouveau roman d'Ivi Sadero?
Précisément, c'est l'histoire de la relation entre trois enfants, deux filles et un garçon, donc Anna, Claire, Cooper. Ils ont été élevés dans le même ranch en Californie du Nord, mais ils ne sont pas du même sang, enfin, ce sont des demi-frères, demi-sœurs. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. On est en Californie, donc dans un univers qui rappelle beaucoup celui de Jim Morrison, le Jim Morrison de Dalva ou de Les gens d'automne.
Les grands espaces.
Voilà, les grands espaces, les montagnes, les chevaux, les cascades, la glace qu'on casse au petit matin pour faire une toilette de chat. Et alors évidemment, cette belle harmonie va se briser très vite, puisque après quelques pages, on revient sur ce grand classique de la littérature, le meurtre du père. Donc il y a une histoire d'amour en fait entre Cooper et Anna, les deux jeunes gens. Le père va les surprendre, va tenter de tuer Cooper. Anna va tenter de tuer son père. Enfin bref, la famille explose en plein vol.
Ça m'explique pas tout à fait le titre. Assez étrange. Ça veut dire quoi, Divi Sadero?
Alors en fait, Divi Sadero, c'est le nom de la grande artère qui balafre San Francisco et qui partage en fait les quartiers modernes des quartiers plus anciens. Et effectivement, dans le roman, il n'est question que de cela, c'est-à-dire de fractures, de cassures. Cooper, en fait, après cette tentative de meurtre, va partir dans le Nevada où il va devenir joueur de poker professionnel. Claire va devenir enquêtrice dans un cabinet d'avocats et Anna va rompre avec toute sa famille, partir dans le sud de la France pour faire un travail universitaire sur un écrivain très confidentiel qui s'appelle Lucien Segura.
Donc il y a un côté saga comme ça dans ce roman. Vous parliez de fracture, Elisabeth, de cassure. Est-ce que ça se retrouve dans le style? Parce que quand même, un roman, c'est d'abord de l'écriture. Hein.
C'est un roman très expérimental. Alors on peut même dire que Michael Ondaatje revient peut-être à ses premières amours, c'est-à-dire la poésie, et une poésie qui était très inspiré par la technique du Shut Up, cher à William Burroughs. Donc cette façon de, d'articuler des tas de petits morceaux de texte complètement hétéroclites. Donc en fait, l'histoire va s'éparpiller entre ces trois personnages, deux continents. Il y a un côté aussi poupée russe, c'est-à-dire qu'on est dans l'histoire de cette fratrie éparpillée, et puis tout à coup, hop, on passe dans l'univers de Lucien Segura, donc ce romancier. Enfin, tout est extrêmement mélangé, fragmenté. C'est un roman très atmosphérique. Et en même temps, Pascal, le paradoxe, c'est que c'est un roman qui est extrêmement précis dans sa description, notamment des métiers. Ça, c'est une grande constante chez Ondaatje. C'est une précision presque documentaire. C'est-à-dire que quand il écrit sur Cooper, qui est joueur de poker professionnel à Vegas, eh bien, on a des pages et des pages sur la description presque clinique des parties de poker.
Le roman s'appelle donc Divisadero de Michael Ondaatje. Il est édité chez L'Olivier.
C'est bien la fin. La fin d'une horreur sans nom pour les détenus du camp de Belsen, où 60 000 hommes, femmes et enfants ont vu arriver les troupes anglaises. Comme ceux de Ravensbrück, de Buchenwald, d'Auschwitz et d'ailleurs, ces malheureux arrachés à tous les coins de l'Europe étaient promis à l'extermination. Privés de nourriture, privés d'eau, privés de soins, ils étaient destinés à succomber dans ce camp de la mort lente pour la plus grande gloire du peuple des seigneurs. Car ce peuple ne s'est régné que sur des cadavres.
Extrait des actualités de 1945, le monde découvre les camps et le cinéma va s'emparer de cet événement monstrueux. Ce qui donne lieu, à partir d'aujourd'hui, Bérénice Balta, à une rétrospective à la Cinémathèque française.
9 janvier, 2 mars, 2 mois pour tenter de comprendre le trouble, hein, la trouble relation entre le cinéma et cette grande tragédie du XXe siècle qui a été évidemment le génocide des Juifs. Ce cycle proposé donc à la Cinémathèque, hein, 51 rue de Bercy dans l'Est de Paris, a été conçu en parallèle avec le livre édité par les Cahiers du cinéma et pertinemment intitulé « Le cinéma et la Shoah ». Il associe des films, des œuvres ayant une relation directe évidemment avec la Shoah, mais aussi avec d'autres, hein, qui peuvent se lire à un titre ou à un autre, être des effets dans l'écriture cinématographique, puisque comme il est rappelé dans l'ouvrage collectif dirigé par Jean-Michel Frodon, c'est en référence à la Shoah qu'a été construite une part décisive de la pensée du cinéma moderne.
Donc vous pensez ça à ça, enfin, en parlant du Dictateur ou de Nuit et brouillard, par exemple.
Par exemple.
Alors il y a un autre livre qui compte, et elle a joué un rôle important, c'est le travail de l'historienne Claudine Drame.
Oui, prof agrégé d'histoire et surtout responsable du Festival international du film contre l'exclusion et pour la tolérance, le FIFET, qui se tient en octobre à Paris. La dernière édition était d'ailleurs Reflet de la Shoah au cinéma 1945-1985, sous-titre de son livre Des films pour le dire. Ce livre est accompagné d'un DVD de témoignages de rescapés qui tente à démontrer que le cinéma peut parfois aussi être un instrument d'écriture de l'histoire au-delà de toutes les fictions ou évidemment des archives que l'on connaît ou dont on a entendu un petit extrait.
Et vous avez donc rencontré Claudine Drame, Bérénice Balta, pour refaire un peu le trajet, l'histoire de cette relation trouble, comme vous le dites vous-même, entre le cinéma et la Shoah.
Ces images, d'abord, elles sont très réduites dans le temps. C'est-à-dire que les actualités cinématographiques qui passaient à chaque projection, hein, donc, qui étaient vues par des millions de personnes chaque semaine, on estime par exemple pour l'année 45 qu'il y a environ 7,5 millions de personnes qui ont vu ces actualités cinématographiques. D'abord, jusqu'au mois d'avril, elles sont quasiment inexistantes. Surtout pour des raisons de protection des familles, parce que les absentes ne sont pas encore rentrées, les absents comme on disait. Et à partir d'avril, avec le fait qu'Eisenhower a voulu justement montrer au monde et a voulu que les journalistes diffusent ces informations, on a en tout entre 7 et 10 sujets jusqu'à la fin de l'année 45, sur 300 sujets environ. Donc environ 7 sujets qui durent une minute et demie, une minute, deux minutes, et qui montrent ce que l'on découvrait. Et petit à petit, on montre de plus en plus des images chocs, des images terribles. Donc on a l'impression que la caméra va être une image preuve. Et donc on montre des images qui à la fin deviennent complètement... Il ne reste plus que la terreur de ces images finalement et l'horreur sans explication aucune. En France, il faut attendre 1955 et le film de commande réalisé par Alain Resnais, Nuit et brouillard. Mais entre-temps, des fictions arrivent et sont diffusées en France, qui sont des fictions étrangères, notamment polonaises, allemandes et tchèques. Comme film allemand, on a immédiatement après la guerre un film de Stott qui est Les assassins sont parmi nous et qui traite essentiellement de la culpabilité allemande. Mais les films qui ont marqué le plus, c'est d'abord La dernière étape de Wanda Jakubowska qui est diffusée en France en 1948 et qui traite de la vie ou la survie plutôt au quotidien des femmes au camp des femmes de Birkenau. Et de ce film émane une telle réalité que la plupart des anciens déportés disent que c'est à leurs yeux le film qui exprime le mieux ce qu'ils ont vécu.
Après Nuit et brouillard, en revanche, les choses changent un petit peu, Claudine Drahm.
Ce film Nuit et brouillard ouvre une sorte de petite série de films français jusqu'en 1961, donc entre 55 et 61, période pendant laquelle le cinéma français essaie d'aborder cette question et cherche vraiment à l'aborder en essayant le documentaire Nuit et brouillard, en essayant la fiction avec L'Enclos et le film de montage avec Le temps du ghetto de Frédéric Rossif. Tout au long de ce travail, ce que j'ai essayé de voir aussi, c'était en quoi le cinéma avait accompagné la construction d'une mémoire sociale de cette question. Et si vous voulez, cette représentation un peu trop fictionnelle ou parfois avec des excès culmine avec le feuilleton Holocauste, qui est une forme hollywoodienne de représentation qui a révélé à énormément, à des millions de personnes et de jeunes, notamment aux États-Unis, mais même en Allemagne aussi, ce qu'a été le génocide des Juifs, mais qui en même temps va provoquer un nouveau mode de représentation. Jusqu'à maintenant, tout au long, le cinéma, même s'il n'a pas été très productif sur la question, a cherché à représenter cette question et à chaque fois à modifier. Donc on va d'une représentation complètement directe et brutale à une représentation de plus en plus abstraite. Et à ce moment-là, après Holocauste, il se trouve qu'un groupe de déportés du Connecticut qui avait commencé à se sont dit mais c'est pas ça qu'on a vécu et ont pris l'initiative d'enregistrer sur support vidéo des témoignages pour raconter ce qu'ils ont vu et vécu. Le relais a été pris par la suite par Spielberg et dans le même temps, il y avait tout le travail de Claude Lanzmann, qui a mis 11 ans pour réaliser Shoah, qui est sorti donc en 85, et qui est aussi une sorte de réaction anti-Holocauste, si vous voulez. C'est vraiment l'antidote de Holocauste. Donc, c'est vrai que cette période 85, là, marque une coupure et ouvre une ère nouvelle. On arrive à un point où, comment dire, l'événement est vraiment entré et intégré dans la mémoire et presque en passe d'être rentré dans l'histoire.
La rétrospective sur cinéma et Shoah commence donc dès aujourd'hui à la Cinémathèque française et se déroulera jusqu'au 9 mars avec bien évidemment des événements, pas simplement des projections de films, mais notamment une table ronde ce week-end samedi avec Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah. À lire sur ce sujet toujours, donc le livre de Claudine Drahm, Des films pour le dire, reflet de la Shoah, édité chez Metropolis, et bien évidemment l'ouvrage collectif sous la direction de Jean-Michel Frodon aux éditions des Cahiers du Cinéma, Le cinéma et la Shoah, un art à l'épreuve de la tragédie du XXe siècle. Merci à tous. Culture Vive avec Florence Pons, réalisation Nicolas Piga, Pierre Gros à la technique. Demain, nous serons avec la troupe des Tégestan, une compagnie de théâtre belge qui joue une pièce de Thomas Bernhardt. Bien à vous, à demain.
Pour nous écrire par email culture.vive@rfi.fr